Dans le cadre de notre partenariat avec le journal La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie,
j'entends beaucoup parler de votre travail.
Retrouvez les grands titres du journal sur Divergence FM avec Françoise Verna,
je vous adore,
rédactrice en chef adjointe en charge de l'édition Occitanie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Avec nous au téléphone pour cette première une de la Marseillaise 2023, Françoise Verna. Bonjour Françoise.
Bonjour, bonjour Bruno, bonjour à tous les auditeurs.
Et pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le programme qui débarquerait sur Montpellier, c'est un partenariat Divergence FM, la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, où on va égrener la une de cette nouvelle Marseillaise à paraître ce vendredi. Et la une commence avec le dossier que la Marseillaise propose sur la crise de l'énergie et ses conséquences sur les artisans et notamment les boulangers en Occitanie.
Oui, tout à fait. Donc, ça porte sur cette crise et évidemment les conséquences. Alors, notamment sur les artisans boulangers, parce que eux, évidemment, ils subissent, on va dire, une double peine,
hein, oui.
Puisqu'ils sont à la fois frappés par la hausse des coûts de l'énergie. Mmh. Et donc, pour faire du pain, il faut beaucoup, beaucoup de chaleur.
Oui.
Et il faut refroidir aussi pour tout ce qui est en pâtisserie, quoi.
Mmh.
Et donc, leur facture a littéralement explosé. Et aussi, ils sont frappés par la hausse des prix des matières premières, notamment tout ce qui est blé, tout ce qui est œuf. Mais ils ne sont pas les seuls à être atteints. Il y a aussi tout le secteur de l'hôtellerie-restauration et des particuliers. Et donc, nous consacrons notre dossier de la semaine sur cette crise énergétique en donnant aussi la parole à des personnes qui proposent, notamment des syndicats et des économistes, des partis, d'autres pistes pour sortir de cette crise. Alors, on fait le lien, on pourrait le faire avec sur la situation sociale qui se durcit fortement dans notre pays, puisque mardi, la première ministre Elisabeth Borne a dévoilé le contenu de la réforme des retraites. Donc, c'est l'allongement de l'âge légal de 62 à 64 ans à l'horizon 2030, et couplé à l'allongement de la durée de cotisation pour une retraite à taux plein qui va passer à 43 ans en 2027. Donc, évidemment, notre analyse, nous, c'est de dire et de démontrer que c'est une régression sociale vraiment en lettres capitales, et qu'il y a d'autres solutions. Et donc, nous revenons évidemment sur ces annonces, sur les réactions, donc dans le journal de vendredi, et sur les premières mobilisations qui vont avoir lieu, notamment le 19 janvier, première grande mobilisation à l'appel de l'intersyndicale. On passe après ensuite à un autre sujet qu'on souhaitait mettre aussi en avant, c'est les avancées médicales. On sait que Montpellier est toujours en bonne place au niveau des avancées médicales. Désormais, le CHU a réalisé des premières grèves de tissus ovariens. Alors c'est important parce que ça permet à des jeunes femmes qui sont devenues stériles après un cancer d'envisager une grossesse. Alors on a à peu près aujourd'hui en France 150 greffes qui ont déjà été réalisées donc au niveau national, et c'est une première à Montpellier. Et donc c'est important de le faire savoir et d'expliquer pourquoi désormais dans le sud de la France il y a cette possibilité pour les jeunes femmes. On met aussi en avant, non pas pour alléger l'atmosphère, mais quand même, nous sommes très attachés aussi à la culture.
Culture.
Il va y avoir un très beau festival. Alors, c'est dans le Gard, mais ça concerne, on va dire, tous les Occitans.
C'est à côté,
les
Hérolais.
Voilà, c'est à Sommières. C'est un festival qui s'appelle Trad Hivernal, qui est de retour pour sa 24e édition. Donc, dans la ville de Sommières, ça va commencer le 18 janvier jusqu'au 22 janvier. Et donc, son objectif est toujours le même, c'est la mise à l'honneur des musiques et des danses traditionnelles occitane. Hein. Mmh. Ils ne sont pas figés dans le passé. Hein. L'objectif aussi qui est très intéressant pour nous de mettre en avant, hein, c'est de transmettre aux nouvelles générations cette culture, ou plutôt ces cultures. Hein, oui. Parce qu'il n'y a pas une culture occitane. Il y a différentes façons de faire vivre les cultures occitanes. Et ce festival tradivernal, donc, permet de découvrir des artistes, et il y a une dimension de transmission aux jeunes générations.
Mmh. Allez, à la une de la Marseillaise, vous avez les titres et on en parle tout de suite avec Françoise Vernat.
Politique, sociale, société, économie, France et international, environnement, sport, culture et loisirs, la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, c'est à retrouver tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.
Et on commence, Françoise, avec le dossier de la Marseillaise sur la crise de l'énergie et ses conséquences, notamment sur les artisans. Et on en parle beaucoup, notamment sur les boulangers en Occitanie qui ont vu leurs factures littéralement exploser.
Oui, tout à fait. Donc c'est la crise énergétique, elle touche tout le monde, cette crise. Mais particulièrement, il y avait donc une partie de la population qui sont les artisans, et notamment les artisans boulangers, qui sont littéralement pris à la gorge, puisqu'ils ont découvert au mois de décembre leur facture. Oui. Qui ont littéralement explosé. Il y a des factures qui ont été multipliées par 10, et c'est juste insoutenable. Ils ne sont pas capables de les payer. Oui. Alors évidemment, on dresse ce constat et on donne la parole à des professionnels. Hein. Il faut savoir qu'il y a à peu près en Occitanie 3 300 artisans boulangers, oui, et pâtissiers. Hein. Souvent, ils sont aussi pâtissiers. Il y en a un peu plus de 300 sur le seul département du Gard. Oui. Et donc, ce n'est pas une petite affaire, puisqu'il y a un gros pourcentage de ces artisans qui n'ont plus droit aux tarifs réglementés de l'électricité et du gaz, qui sont a pris assez grandes difficultés. Donc, ce qui nous semblait intéressant, c'est d'expliquer les raisons de cette flambée des prix. Hein. Oui. Donc, il faut, et pour bien comprendre, alors là, on va traverser la Manche, hein. Il faut remonter aux années 1980,
oui,
et traverser donc la Manche pour se retrouver en Grande-Bretagne, où dans les années 80, les entreprises publiques de l'énergie ont été les premières à être démantelées,
oui,
sous la férule de Margaret Thatcher, qui était première ministre de 1979 à 1990, et elle a fait beaucoup de dégâts, oui, sur les services publics, et c'est elle qui a donné le top départ de la libéralisation de l'énergie.
D'accord.
Après, c'est devenu, sur le plan européen, une politique structurelle de l'Europe de libéraliser les marchés de l'énergie, c'est-à-dire de casser les services publics de l'énergie. Donc en France, chez nous, c'est au milieu des années 2000, hein, 2009-2010,
oui,
avec une loi qui s'appelle la nouvelle organisation du marché de l'énergie, la loi NOM, qui a été mise en place et instaurée par sous Nicolas Sarkozy, et son premier ministre de l'époque était François Fillon.
Oui.
Donc la promesse, entre guillemets, entre très gros guillemets, était de permettre aux particuliers, aux entreprises, de choisir leur fournisseur en cassant EDF et GDF, oui, en disant ça sera moins cher. Sauf que ce qui domine, bien évidemment, et la seule règle préside au marché de l'énergie aujourd'hui, c'est la loi de l'offre et de la demande,
oui,
c'est la loi du marché et de la spéculation.
Mmh.
Et donc, même s'il existe toujours des tarifs réglementés, les fameux tarifs bleus, la grande majorité, comme je le disais, des artisans boulangers n'y ont pas droit.
D'accord.
Et donc, leur activité est en danger.
Et alors, Françoise, cette augmentation, alors du coup, elle vient d'où? Puisque moi, j'ai toujours entendu que la France exportait de l'énergie.
Ben, disons que le problème de la France, c'est que on n'a pas très bien entretenu notre outil de production.
Mmh.
Alors, au-delà du débat qu'il peut y avoir entre nucléaire, pas nucléaire, on a aujourd'hui un système de production qui, à 80-90%, est basé sur le nucléaire.
Oui.
Le fait d'avoir laissé péricliter les centrales a fait que la France s'est retrouvée cette année en grande difficulté.
Mmh.
Évidemment, on produit, et puis surtout, produire de l'électricité, c'est notamment EDF qui produit l'électricité,
oui,
mais EDF a été soumis à des règles qui sont des règles très injustes. Elle produit l'électricité et il y a une loi qui l'oblige, une réglementation qui l'oblige à vendre à bas coût aux fournisseurs d'énergie,
d'accord,
au privé. qui, eux, vont répercuter, évidemment, vont le revendre aux particuliers ou aux artisans ou aux entreprises, mais au prix fort.
D'accord.
Donc, on est dans un système, on peut appeler carrément de spoliation d'un bien qui devrait être un bien commun.
Oui.
Donc, nous donnons la parole notamment à un économiste qui nous explique, c'est Henri Sterminiac, qui est donc qui connaît bien la question économique et les ressorts de l'inflation notamment,
oui.
Et qui nous explique qu'il y a eu du retard dans les décisions prises par le gouvernement pour soutenir les petits artisans.
D'accord.
Puisque ça date de, c'est très frais, c'est vendredi dernier que le ministre de l'économie a, on peut dire, fanfaronné en disant qu'il avait trouvé un accord avec les fournisseurs pour limiter pour 2023 le prix du kilowattheure à 280 euros le kilowattheure. Pour les artisans boulangers qui réagissent à cette décision, ils disent c'est pas un cadeau, ça sera toujours plus cher que ce que nous payons auparavant.
D'accord.
Donc, pour sortir de cette situation, il y a les mesures à court terme, hein, à savoir, il y a y compris les collectivités, notamment la région Occitanie, qui met en place un guichet unique,
oui,
pour soutenir et aiguiller les artisans touchés par cette flambée des prix. Il y a l'État qui a mis en place un bouclier tarifaire, mais auquel n'ont pas droit les artisans boulangers,
puisqu'ils
ils font pas partie des catégories qui ont été privilégiées, notamment les premiers privilégiés, enfin entre guillemets, puisque même les particuliers payent très cher.
Oui.
Et donc ça, c'est le très court terme, c'est, on va dire, les pansements. Hein. Sur le fond, ce qu'il faudrait faire, et ce que nous raconte notamment la CGT Énergie, hein, que nous avons interrogée, c'est qu'au lieu de dépenser des milliards en bouclier tarifaire, il faut que l'État reprenne la main sur le service public de l'énergie.
Et oui.
Donc, il y a des exemples proches, hein, puisque l'Espagne et le Portugal se sont mis en retrait du marché européen de l'énergie.
Mmh.
Et donc, on n'est pas pieds et poings liés, nous explique Marc Michel, qui est un des responsables mine énergie de la CGT de l'Hérault.
Oui.
Ce marché est libéralisé depuis quasiment 2008, hein, on disait 2008, et la loi NOM 2010 fait que le service public a été complètement démantelé, et qu'il nous explique précisément, je le disais tout à l'heure, qu'on a entre 25 et 30% d'énergie publique qui est bradée à prix coûtant,
oui,
pour les opérateurs privés, pour les... qui eux font du chiffre. Et donc, cette maîtrise publique permettrait évidemment de régler la crise. Hein, donc en fait, c'est une crise d'État colmate, oui, l'État dépense beaucoup.
Et qu'est-ce qui freine
Ce qui freine, c'est le choix politique.
C'est le choix politique.
Sur des choix politiques, et on voit bien que il y a les syndicats, il y a des économistes, il y a des partis de gauche aussi,
ouais,
hein, revendiquent une autre façon de faire, mais on est au niveau européen avec des États et même au niveau des États eux-mêmes avec des gouvernements qui ne font pas ce choix-là.
D'accord.
Donc ce sont des choix politiques. Politique, et c'est ce que nous essayons, je pense, de façon assez pédagogique d'expliquer dans ce dossier. On ajoute aussi un élément important, c'est on dit ils vendent au prix fort. Il faut savoir que Total Energy, cette année, enfin pour 2022, va distribuer 13 milliards d'euros à ses actionnaires.
Et oui.
Donc cet argent, l'argent, il y est. Or, on a des choix politiques qui font qu'il y a un refus de taxer ces profits. Et l'État préfère payer et dépenser des milliards qui sont les milliards des contribuables, au lieu de taxer ceux qui se font de l'argent sur l'énergie. Donc, c'est à la fois un dossier où on soulève la problématique de fond, tout en donnant la parole notamment aux premiers concernés, On a des témoignages d'artisans, mmh. des témoignages de gens de la culture, oui. et de particuliers aussi, avec une famille monoparentale, où la personne étant avec incapacité, même avec le bouclier tarifaire, oui. et l'aide, le chèque énergie qui ne couvre pas sa facture annuelle, qui va s'élever à 2000 euros mmh. pour des revenus qui sont en dessous de 800 euros mensuels.
Oui, d'accord.
Donc voilà, donc c'est un dossier qui nous semblait fondamental de faire en ce début d'année.
Oui, et puis ça va tellement loin que même les communes ne savent même pas comment elles vont payer leurs factures.
Les communes sont en grande difficulté aussi. Les communes, et quand on dit que les communes sont en difficulté, les collectivités sont en difficulté, ça frappe le fonctionnement des services publics.
Et oui.
Voilà.
Allez, la Marseillaise revient en détail sur les annonces de la Première ministre Elisabeth Borne à propos des retraites et de cet allongement qui fait peur à tout le monde de l'âge légal de 62 à 64 ans, horizon 2030.
Oui, alors bien évidemment, la Première ministre Elisabeth Borne a fait ses annonces mardi. Mmh. On rappelle en résumé que l'âge légal de départ à la retraite atteindra 64 ans en 2030 mmh. contre 62 ans aujourd'hui. Et elle prévoit aussi, Elisabeth Borne et son gouvernement, d'accélérer l'allongement de durée de cotisation en avançant à 2027 l'exigence de 43 années de cotisation mmh. pour une pension à taux plein au lieu de 2035.
D'accord.
Donc l'allongement de l'âge légal à 64 ans plus l'allongement de la durée de cotisation à 43 ans d'ici 2027 aura pour conséquence pour des millions de travailleurs et notamment des classes populaires et des classes moyennes,
oui.
D'être dans la difficulté importante pour obtenir une retraite décente,
oui.
contrairement à ce qu'ils disent. Alors évidemment, nous revenons sur ces annonces et surtout sur la riposte qui est en train de se mettre en mmh. place, puisque l'intersyndicale, qui est composée, je le rappelle, de la CFDT, de la CGT, de Force Ouvrière, de la CFE-CGC, donc c'est le syndicat des cadres, de la CFTC, de l'UNSA, de Solidaire et de la FSU,
oui.
c'est-à-dire que l'ensemble des grands syndicats de salariés, publics et privés, sont vent debout et unis dans une intersyndicale.
Et c'est rare.
Depuis 2010, ça ne mmh. s'était pas passé. 2010, c'était la précédente réforme régressive hein, de François Fillon,
oui.
Toujours lui,
oui.
Où l'âge légal avait été porté de 60 à 62 ans. Donc, il y a une première journée de manifestation et de grève qui a été décidé donc mardi soir et qui est fixé au jeudi 19 janvier.
Mmh.
Il faut savoir que dans l'Hérault, il y a déjà deux rassemblements de prévus ce jeudi 12 janvier à 18h devant la préfecture à Montpellier,
oui.
et devant la sous-préfecture de Béziers. Donc ça, c'est un premier acte hein, d'un point de vue local. Et le 19 janvier, ça sera, comme le dit notamment le syndicat, ce n'est qu'un commencement,
mmh.
puisqu'il y a le calendrier ensuite, évidemment, de la réforme en elle-même, mmh. qui va être présentée au Conseil des ministres dans deux semaines, et le débat au Parlement va débuter début février. Mmh. Et là, il y a une dimension politique importante, c'est que le gouvernement compte sur les voix des élus de droite LR, ouais. Les Républicains, qui ont fait savoir qu'ils étaient d'accord avec cette réforme.
Mmh.
Et c'est surtout cette réforme, quelque part, c'est aussi la leur, puisque c'est leurs deux principales exigences,
mmh.
à savoir 64 ans et l'augmentation de l'allongement et l'accélération de l'allongement de la durée de cotisation.
Mmh.
Et c'est un sujet... ce sujet des retraites rejoint notre premier sujet,
oui.
celui de l'énergie. Alors pourquoi il le rejoint? Parce que on comprend que tout est question de choix politique. Hein. Financer les retraites, dégager de l'argent pour les retraites, c'est un choix politique. Or, ce gouvernement et Emmanuel Macron ne veulent pas taxer les profits,
oui.
ne veulent pas établir une politique fiscale juste. Ils ont défiscalisé énormément les revenus les plus élevés. lors du premier, premier quinquennat, ça continue. Et, or, d'autres pistes pour les retraites existent. Hein. Les syndicats l'ont mis sur la table, ça a été balayé, balayé en dépit de ce que veut dire Elisabeth Borne. Donc, c'est vraiment une question de choix politique. Hein. C'est la deuxième grande dimension, c'est aussi l'avenir. Il va y avoir la bataille là nécessaire à court et moyen terme contre ce texte de loi. Et puis l'avenir, celle de l'Union, notamment des forces de gauche, pour proposer une autre politique. C'est d'autant plus important à nos yeux qu'on a aussi un autre parti, celui d'extrême droite, le Rassemblement national, qui est aussi contre cette réforme et qui pourrait engranger des soutiens populaires lors des prochaines échéances. Donc vraiment, on a affaire à quelque chose d'explosif et on peut s'interroger sur cette volonté de mettre quand même le pays en grande difficulté et les Français en difficulté alors qu'ils sont déjà en butte à énormément de difficultés pour payer leurs factures et pour trouver aussi et exercer un travail correct.
Mais est-ce que vous croyez que les syndicats croient vraiment en ces manifestations? Parce que j'entendais mercredi dernier le porte-parole du gouvernement Olivier Véran chez nos confrères de France Info qui disait « Bon, ben oui, je comprends que les gens ne soient pas contents qu'ils manifestent, mais quoi qu'il arrive, on est obligé de passer par là. » Et bon, même si la majorité n'a pas les soutiens espérés, ça passera par du 49-3.
Eh bien, c'est vrai que le gouvernement a mis quand même tout, fait tout. Il y a une guerre aussi, psychologique. Hein.
Oui.
Bruno Le Maire a encore dit ce matin, on ira jusqu'au bout, en dépit des manifestations, en dépit des mobilisations. Bon, ça, c'est la position classique. Et ça peut peser, évidemment. Cela dit, comme nous l'écrivons tous les jours à notre une, ceux qui combattent peuvent perdre, mais ceux qui ne combattent pas ont déjà perdu.
Eh oui.
Donc ça, c'est Bertrand Brecht, hein, c'est une devise, c'est la devise du journal La Marseillaise, hein, qui est un journal et d'information, mais aussi l'outil au service de ceux qui n'ont pas la parole dans les médias dominants. Il y a une forte opposition, c'est vrai, des Français, puisqu'ils sont régulièrement sondés. Là, on est à 80% d'opposition sur l'allongement de l'âge légal. Est-ce que ces 80% se retrouveront dans la rue et bloqueront le pays? Je trouve que, en tout cas, c'est irresponsable de la part des ministres du gouvernement d'attiser comme ça la colère en disant « vous pourriez taper du pied et vous mobiliser, on ne bougera pas, ça sera ça et pas autrement ». Ce n'est pas comme ça qu'on peut imaginer un gouvernement juste pour notre pays.
On n'est pas un 49-3 près, j'ai l'impression, dans ce gouvernement.
Donc
c'est
voilà,
ce qui ressort.
On va, c'est le début d'un grand. L'objectif au niveau du journal La Marseillaise, hein, c'est de donner tous les outils de compréhension à nos lecteurs. Hein, aux personnes qui nous lisent aussi sur notre site internet et surtout la parole pour décrire le quotidien des personnes, des travailleurs, des retraités aussi et des futurs retraités, sachant que on fait payer là aux classes les plus modestes et plus populaires une politique libérale.
Et je trouve que c'est très important ce que fait la Marseillaise justement avec cet article et parce que en fait c'est une usine à gaz et on comprend même que le gouvernement ne sait même pas où il va. Il dit toujours oui, on est en discussion.
Oui, ben disons que c'est le discours on discute, mais 3 mois de concertation. Chaque fois que les syndicats, les responsables syndicaux sont sortis de ces discussions, ont toujours dit qu'ils n'étaient pas écoutés. Ils n'étaient pas écoutés. Et les gages donnés en surface pour tout ce qui relève de la pénibilité, pour tout ce qui relève des carrières longues ou de la situation ou des petites retraites revalorisées, quand bien même il faudra avoir cotisé 43 ou 44 ans. Et quand on connaît l'état du marché du travail, qui aujourd'hui aura ses 43 annuités à 64 ans. Voilà. Donc, ce recul social historique, hein, oui. On peut dire que ça sera une date historique, va donner l'occasion vraiment d'un... Il faudrait qu'il y ait un vrai débat. Il faudrait aussi peut-être que le gouvernement fasse le choix du référendum, mmh. quand c'est une réforme qui touche à ce point la vie quotidienne de millions de personnes.
Mmh, absolument.
Ce n'est pas son choix.
Ouais. Allez, après une régression sociale, on va parler de progrès de la médecine,
oui,
à
ça
Montpellier.
Fait du bien.
Et oui, ça fait du bien, un petit peu de soleil dans ce monde de brut. Désormais, le CHU de Montpellier réalise des greffes des ovaires.
Ovariennes, oui, oui.
Pour permettre à des jeunes femmes devenues stériles après un cancer d'envisager une grossesse. Et ça, c'est pas rien.
Oui, ce n'est pas rien. Donc, c'est une première pour le CHU de Montpellier. Il faut savoir qu'en France, hein, il y a déjà eu 150 greffes d'ovaires qui ont été réalisées.
Oui.
Mais c'est la première fois et ça s'est passé mi-décembre. Ça a concerné pour deux jeunes femmes de 30 et 27 ans mmh. qui ont été guéries de leur cancer, mais qui sont devenues stériles après les traitements.
Oui.
Et donc, elles ont pu bénéficier d'une greffe de leur tissu ovarien. C'est vrai qu'il y a des, faut rappeler quand même qu'il y a des chimiothérapies ou des radiothérapies, elles guérissent, mais elles peuvent exposer à ce qu'on appelle la ménopause oui. précoce. Hein. Et donc, ces deux jeunes femmes avaient accepté au moment du diagnostic, en 2017 et en 2018, que soient réalisés des prélèvements de leur tissu ovarien oui. Pour qui ont été donc conservés dans le froid. Mmh. Et donc, ces deux opérations se sont très bien déroulées. Ça s'est passé donc les 13 et 16 décembre. Hein, et c'est le docteur Pascal Pivert, qui est un référent en préservation de la fertilité du CHU de Limoges,
oui.
qui est venu spécialement à Montpellier pour assister l'équipe du service de gynécologie obstétrique de Montpellier,
oui.
pour les assister dans cette première. Et le CHU nous explique que ces interventions doivent permettre à ces deux patientes de récupérer leurs fonctions ovariennes et donc, d'ici quelques mois, pourraient obtenir une grossesse spontanée ou par fécondation in vitro. En général, les grossesses spontanées après ce type de greffe sont assez importantes.
D'accord.
Et donc, il faut savoir qu'en France, le prélèvement de tissu ovarien est autorisé depuis 2004.
Hein, oui.
Et donc, en vue d'une greffe future, après, bon, il y a le progrès aussi technique. Hein. Il y a déjà 35 enfants qui sont nés dans l'Hexagone grâce à ces greffes.
Mmh. Hein, ça marche.
Et 200 dans le monde. Alors, c'est pas beaucoup, mais ça fonctionne. Hein. Mmh. Et donc, c'est vraiment un grand espoir pour toutes les femmes de la région privées de leur fertilité mmh. suite au traitement du cancer.
D'accord. Allez, pour finir, un petit peu de culture. Du 18 au 22 janvier prochain, c'est le Festival des Trades Hivernales qui est de retour pour sa 24e édition à Sommières.
Oui, alors la ville de Sommières dans le Gard accueille ce festival, donc du 18 au 22 janvier. Et donc, Trades Hivernales, alors Trades, c'est pour tradition,
mmh.
hivernale évidemment, parce que c'est un festival qui se déroule l'hiver.
Ouais.
Donc, c'est rare, mais c'est très très bien, c'est très bienvenu. Ça donne un peu de chaleur. Donc c'est l'association Coriandre qui organise depuis une vingtaine d'années ce festival,
oui.
qui donc met à l'honneur les danses et la musique occitane. Hein. Et c'est dans le but évidemment de continuer à faire vivre cette culture très 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 riche et très plurielle. Hein.
Mmh.
Donc il se renouvelle sans cesse évidemment pour continuer à exister. Hein, dans que nous disent les organisateurs. Denis Galvier, qui est le fondateur de l'association Coriandre, qui organise donc ce festival, dit qu'il se réinvente tout le temps. Hein. Mm-hmm. Il faut la tradition, si elle reste figée et confite dans le passéisme, elle n'a pas d'avenir.
Eh oui.
Donc le but, c'est notamment de transmettre aux plus jeunes. Et cette année, le festival, il a intégré une convention générale d'éducation artistique et culturelle.
Oui.
Donc ça, ça a été mis en place par la communauté de communes du pays de Sommières. Mmh. Et donc, il y a un projet pédagogique autour de la transmission de la langue occitane qui a été mis en place à travers la musique, mmh. donc qui est un vecteur très ludique et très, on va dire, amusant pour les enfants. Hein. Mmh. Et donc, il y a des musiciens qui vont aller dans les classes de deux écoles du territoire, mmh. Où les enfants apprendront des chansons en occitan. Plus d'une centaine d'enfants vont être concernés par cette initiative, hein, et ils vont le chanter, ils vont se produire le 20 janvier dans le cadre du festival.
D'accord.
À côté, évidemment, des groupes de professionnels qui seront présents. Donc, on peut en citer quelques-uns, mais il y en a 18. Hein, donc, c'est peut-être l'occasion aussi d'en faire écouter sur Divergence. Hein.
On en écoute Sarah, déjà.
Et oui, oui, j'imagine. Hein, Sarah, Pedru, Delacroix. Et donc, ce que dit Julien Régis, qui est le programmateur du festival,
ouais.
c'est que il s'agit vraiment d'illustrer la diversité des musiques traditionnelles, mmh. et il souligne à juste titre, hein, qu'il y a vraiment un engouement du public pour les musiques traditionnelles. Hein,
ouais. Mais voilà. Pardon, Françoise, allez-y.
Non, je veux dire qu'il y a... C'est pas, il y a de l'électro, il y a du rock, c'est pas du tout quelque chose de passéiste,
oui,
au contraire.
Oui,
hein.
oui. Mais c'est ce que j'allais vous dire. On sent un regain de cette appétence pour cette culture occitane, oui. et notamment au travers des institutions telles que la région qui met des choses oui. en place pour faire vivre cette culture occitane, ou comme vous le disiez, les communautés de communes. Par exemple, le collectif des radios libres d'Occitanie oui. va signer une convention sur 3 ans. Qui va parler de cette culture occitane et pour justement la, alors pas la remettre au goût du jour, mais pour montrer que ce n'est pas mort, que ça vit
non.
toujours et que ça va continuer.
Oui, puis pour continuer et pour la populariser à nouveau, parce que aujourd'hui il y a beaucoup, enfin il y a des universitaires qui maîtrisent encore la langue, mmh. et qui étudient, mais il y a encore des anciens qui la parlent. Chez les jeunes, il y a encore des expressions, il y a
oui.
encore. Mais une culture, si on ne la fait pas vivre, elle risque aussi de se perdre.
Ouais.
C'est quelque chose qui se cultive. Donc c'est extrêmement intéressant de savoir que les radios aussi, parce que le vecteur radio et l'outil radiophonique, c'est quelque chose de fantastique,
et
justement,
oui.
Pour se familiariser, pour l'oreille, pour et puis pour découvrir une culture extrêmement riche qui a modelé nos territoires.
Oui,
hein,
absolument.
Voilà,
et c'est pas si vieux que ça, notamment sur la langue, quoi.
Oui.
Parce que avant, les gens ne parlaient pas forcément français. Ils parlaient différents patois occitans avant de parler français.
Oui, mais c'est comme le provençal, en fait. Il n'y a
ça.
Pas de frontière non plus. Hein.
C'est ça.
L'occitan ou le provençal, c'est plus que cousin. Hein.
Oui.
voilà, donc c'est très bien et on a grand plaisir... d'évoquer ce festival et d'évoquer à l'avenir ce beau partenariat aussi avec les radios libres mmh. pour on va dire, en remettre une petite couche.
Et oui. En tout cas, chers auditeurs, tous ces titres et bien plus encore sont à retrouver à partir de ce vendredi.
Oui, c'est une partie de notre contenu.
Oui, oui. Et notamment sur le site internet aussi de la Marseillaise où vous avez tout. Et c'est bien sûr à retrouver tous les vendredis en kiosque, dans tous les bons kiosques. Et quant à nous, chère Françoise, on se retrouve à partir de la semaine prochaine.
Oui, avec grand plaisir.
Merci Françoise.
Au revoir.
En partenariat avec Divergence FM, retrouvez chaque semaine sur l'antenne du 93.9 les titres de la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie avec Françoise Vernat. La Marseillaise, c'est tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.